En Suisse, où je suis, là, vous savez que j'ai été condamné à 40 jours de prison. J'ai répondu à quelqu'un qui est objectivement une grosse lesbienne.
C'est le premier état de l'histoire, de la culture bolcheviste, était très anti-russe,
Oui, pardon.
très, très, très hostile par rapport à la culture russe.
Et donc, dans la vision occidentale, c'est qui aujourd'hui a repris le flambeau du Katekon? Et là, on se dit, ça ne peut être que la Russie de Poutine. Est-ce que Poutine a conscience qu'il est le Katekon
Oui.
et que c'est sa mission et qu'il doit la mener jusqu'au bout?
Donc, c'est disons, la souveraineté de l'esprit est reconnue dans la loi de l'État. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
Et on voit bien que l'expérience que vous avez eue en Russie, très intéressante, c'est que vous avez eu, dans une séquence très courte, la fin du tsarisme, l'épopée bolchevique, et puis ce petit rebond assez presque miraculeux, c'est que et la chance de la Russie, c'est justement que Poutine a réussi à s'arranger avec la démocratie, et pareil, à garder le pouvoir, une vision sur 20 ans, et il faut quand même que les gens comprennent que une stratégie d'État ne peut pas s'exercer en 4 ans, en 5 ans, même en
Absolument,
10
absolument.
ans, alors qu'en fait, on veut le bien du peuple et on se fait traiter de fasciste.
Il y a des gens qui ne se considèrent pas, comme moi, par exemple, ou même nationalistes. Je suis anti-nationaliste. On me traite comme le nationaliste,
De toute façon, le nationalisme a un sens en France, en Russie, beaucoup moins, puisque vous êtes un empire.
C'est pourquoi le nom d'être libéral, être fasciste et même communiste n'applique pas correctement à notre situation.
Et puis en même temps, je me pose la question. On parlait avant que vous arriviez de la question du catéchone, qui me paraît très, très intéressant. Ce qui empêche
Ouais.
la prise du pouvoir du diable, définitivement.
C'est le thème qui, pour notre conscience historique, politique et géopolitique aujourd'hui, reprend toute la valeur et même la valeur centrale. Parce que
Oui.
quand on nous demande pourquoi vous luttez contre l'Occident, qu'est-ce que vous voulez dire par ça, quelle est votre civilisation, je crois que la réponse plus sérieuse au niveau de la théologie politique, pour en parler avec Carl Schmitt, c'est catéchum. C'est donc la Russie se considère l'héritier de fonction, de la mission catéchonique, précisément pour ne le sait pas à l'antéchrist
Oui, c'est
libéral-démocratique.
la victoire définitive, parce que c'est ça l'enjeu.
Oui. C'est l'obstacle au bois de l'antéchrist.
Et il faut pousser. Moi, quand je suis arrivé en Russie, là, j'ai fait une petite allocution qui a un peu circulé. J'ai dit, voilà, il faut que Poutine prenne le conscience qu'il est le catéchone et qu'il doit se hisser au niveau de cette destinée. Parce qu'il y a toujours le côté libéral, il y a toujours le côté oligarchique. Il fait comme il peut, hein. Le pouvoir est une négociation, mais je dirais, il faut l'investir de cette mission. C'est ça que je dis, moi. C'est parce que si c'est pas lui, c'est personne. Parce qu'en plus, le catéchone est forcément issu du monde monothéiste,
Chrétien,
post-abrahamique. C'est un
chrétien,
concept chrétien,
chrétien.
hein. Bon.
Peut-être aux origines, c'est l'idée de l'empire, de Mésopotamie, de l'empire assyrien,
Et après ça, l'Empire romain germanique.
c'était intéressant.
C'est chez Carl Schmitt qui essaye de trouver quel est le catéchone à chaque époque.
Oui, mais ce qu'il y a la tradition de catéchon qui remonte à vision de Daniel, le prophète Daniel, des quatre empires. Empire babylonien, empire persan, achéménide, l'empire grec d'Alexandre le Grand et l'empire romain, quatrième et dernier.
Rome.
C'était au sein de l'empire, quatrième empire romanique, il y avait le grand événement, la christianisation de l'empire, quand l'empereur romain converti en christianisme, était nommé aux prophéties de Saint Paul, a été appliqué à Rome et romaine. Logiquement, théoriquement, ce statut a été réservé pour l'empereur de l'Empire d'Orient.
Ah oui, c'est
Et donc, c'est l'empereur de Constantinople.
il a été dépossédé par Rome.
Oui, et quand Charlemagne s'est déclaré l'empereur, il a usurpé en quelque sorte le rôle de catéchumène. Mais l'argument a été très valide. Avec tout, jusqu'à les Habsbourg, dans les Ottons, les empereurs, le terme, l'idée de catéchumène a été employée et assez largement. C'était une certaine légitimité, disons, de pouvoir par rapport aux empereurs. Mais les empereurs orientaux de Byzance contestaient ça. Et selon notre histoire, la fonction, la mission des catéchons a été déplacée après la fin de l'Empire
romain d'Orient,
de Byzance, à Moscou. Donc, notre tsar était considéré comme le seul héritier légitime.
Le troisième Rome.
Oui, Moscou, troisième Rome, et comme la continuation qui était l'Empire catéchonique. Mais le sens, la fonction de catéchon en Occident est toujours contestée par les papes, qui n'acceptaient pas cette vision byzantine, en quelque sorte. Ce qui est très honnête, la figure de catéchon n'a joué pas le même rôle dans l'histoire même de Moyen Âge en Occident comme ici. Ici, c'était jusqu'à Nicolas II, jusqu'à le dernier tsar.
Mais nous, on a un auteur contre-culture qui parle vraiment de ça, c'est Laurent Guyenot. Je ne sais pas si vous connaissez ses travaux. Qui conteste la légitimité de Rome par rapport à ça, et qui dit bien que le rôle de Rome a surtout été de masquer la légitimité de l'Empire de l'Empire d'Orient, qu'en fait la vraie héritière c'est Constantinople. Oui. D'ailleurs, une des raisons des croisades, ça n'a pas été le monde musulman, ça a été de détruire le rival. Mais du coup, dans la vision occidentale, ce qu'on est sûr, c'est que Vatican II a définitivement dépossédé l'Église catholique, Rome, de son rôle catéchonique pour l'Occident. Et l'idée que c'est un peu l'idée que le trône est vacant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une vacance et qu'on se dit le diable marque des points, le diable avance parce que justement, il n'y a plus ce catéchon qui est celui qui empêche. Et donc, dans la vision occidentale, c'est qui aujourd'hui a repris le flambeau du catéchon, et là on se dit ça ne peut être que la Russie de Poutine dans cette réconciliation de l'URSS dont il ne faut pas tout rejeter, qui est une épopée très importante, mais de renouer avec ce qu'on appelle la tradition, la Grande Russie. Et donc, pour ces deux raisons-là, on se dit aujourd'hui, s'il y a un catéchon dans notre vision, qui est une vision liée au monothéisme, qui est la vision de ce monde blanc, parce que les Chinois, c'est autre chose, les Indiens, c'est autre chose, ça ne peut être que la Russie de Poutine. Alors, ce qu'on dit, c'est est-ce que Poutine a conscience qu'il est le catéchon et que c'est sa mission et qu'il doit la mener jusqu'au bout. Et il ne faut pas, en cours de route, sombrer dans la satisfaction libérale, parce qu'il pourrait y avoir ce virage pris par la Russie, qui est en train de devenir une superpuissance économique, de très bons bilans. Mais le danger, quand l'enrichissement arrive très vite, c'est la décadence spirituelle. Et le danger, c'est de mener ces deux choses. Et le combat anti-LGBT de Poutine, le combat pour la famille traditionnelle, la différence des sexes, sont des marqueurs très importants, qui d'ailleurs on retrouve et chez Xi Jinping et chez Trump. Le LGBTisme est sans doute, là, dans mon travail que je fais en ce moment, où là on attaque l'homme au cœur de son anthropologie, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de tout, c'est la différence des sexes. On n'est pas sur la lutte des classes. On est à l'os, comme je dirais. C'est-à-dire que le diable a réussi à faire tomber des barrières et là, il s'attaque avec le changement de sexe chez les enfants. En Suisse, où je suis, là, j'ai été condamné à 40 jours de prison pour homophobie, parce que j'ai répondu à une journaliste qui mentait sur moi et qui était une militante queer. Et j'ai juste dit dans une allocution, une grosse lesbienne. Pour ça, j'ai pris 40 jours de prison ferme. C'est la première fois au monde, c'est mon prestige, qu'un intellectuel est envoyé en prison, parce que j'ai eu le bracelet, mais c'est de la prison ferme, d'un point de vue des textes. C'est la première fois au monde qu'un intellectuel est envoyé en prison pour homophobie, c'est-à-dire dès la critique de l'homosexualité, puisqu'il n'y a pas de violence physique. J'ai répondu à quelqu'un qui est objectivement une grosse lesbienne. Et ça, c'est un marqueur, je suis assez fier, parce que c'est comme des médailles. Je suis le premier au monde. Et ça, la Terre entière a... Musk a commenté Le gouverneur du Texas a commenté, la télévision chinoise a commenté, la Russie a commenté en disant la Suisse qui prétend être la démocratie. Et ça veut dire, c'est que la démocratie dans la conception libérale hypocrite, aujourd'hui, c'est envoyé en prison. Oui, c'est de la dictature des mœurs. Ce qu'on reprochait aux dictatures avant, c'est de toucher à, vous savez, les enfants qui étaient embrigadés pour dénoncer leurs parents. En fait, toute cette chose, je ne sais pas si ça existait à ce point-là dans l'ex-URSS, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la période Brejnev, je dirais, de l'Occident, nous. Un empire qui s'effondre et qui devient de plus en plus brutal, mais sur des critères et des concepts qui sont le LGBTisme, qui est quand même le truc. Et ça, c'est quand même rassurant de voir que Poutine, la Russie est sur un chemin de progrès économique. Et aussi, je vois au niveau des infrastructures, moi, ça fait 10 ans que je viens, le standard, je dirais, du réseau routier est en hausse permanente en Russie, les autoroutes jusqu'à Donetsk sont impeccables, alors qu'en France, ce genre de standard très important est en régression. Aujourd'hui, une station-service d'autoroute est mieux tenue en Russie qu'en France. C'est intéressant, hein, ce genre de marqueur. C'est-à-dire qu'il y a ce travail pratique, matériel et social, mais Poutine insiste sur la famille, la différence des sexes, l'aide à la maternité et tout ça. Et ça, c'est ce qui donne quand même de l'espoir.
Patriotisme aussi, les valeurs spirituelles. Nous avons ici le décret de Poutine, 809, qui est appelé le décret ou la loi de la défense de l'État des valeurs traditionnelles.
Oui, c'est
donc,
bien.
C'est quelques documents, la loi, proprement, qui défend les valeurs traditionnelles. Et parmi les valeurs traditionnelles, il y a une certaine valeur qui est formulée d'une manière suivante. Ce qu'est l'esprit et en ont par rapport à la matière. Donc, c'est la souveraineté de l'esprit est reconnue dans la loi de l'État. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, à mon avis.
Et c'est ça qui fait qu'on traite Poutine de dictateur, de fasciste en Occident. C'est hallucinant. Alors qu'il y a quand même une sensibilité populaire. Il y a ce qu'on appelle un sursaut anthropologique. En réalité, il y a une énorme propagande des politiques et des médiatiques en Occident pour imposer au peuple quelque chose qu'il ressent comme profondément dysfonctionnel. Le fait d'envoyer des travestis dans les écoles pour que les enfants sont terrifiés par les travestis. Vous avez vu, ils disent ils n'en veulent pas. Et ça, c'est très douloureux qu'on vit ça en ce moment. Et que quand on critique ça, le pouvoir vous punit violemment. Hein. Moi, je suis envoyé au tribunal pour provocation à la haine, vous voyez. Et provocation à la haine, ça commence par provocation à la haine raciale, et après c'est provocation à la haine sexuelle, vous voyez, c'est-à-dire que vous devez subir cette dérive LGBT sous peine.
Il s'agit de l'idéologie totalitaire. Quand je fais l'analyse d'origine, des origines de cette idéologie LGBT, je crois que le problème est précisément dans l'anthropologie occidentale, anglo-saxon, libéral.
Oui, c'est très anglo-saxon, hein, moi, je crois. On dit que c'est la French Theory, mais c'est un mensonge.
Oui, secondaire. Mais plus important, à mon avis, c'était l'idée que l'homme, c'est l'individu. L'homme est l'individu. Et qu'est-ce que c'est l'individu? C'est l'entité, ou la créature, ou l'entité totalement privée de toutes les connexions avec l'entité collective. Mmh. C'est l'entité libérée de tout ce que est un collectif, holistique, en quelque sorte. Et quand on applique ce critère à l'Église, on reçoit protestantisme, réforme, à la société, la fin de la société hiérarchique du Moyen Âge, et l'arrivée de la bourgeoisie. Donc, c'est bourgeoisie, c'est quelqu'un libéré de ses relations avec les États traditionnels. Après, c'est la société civile contre l'identité collective nationale. Et finalement, l'idée de libérer de l'homme de l'identité sexuelle.
Oui, c'est la dernière étape cohérente de ce processus.
Je crois que la dernière étape, ça sera post-humanisme.
Oui, ça va ensemble. Hein. Transhumanisme, post-humanisme.
C'est la même logique. Parce que être l'homme, c'est être collectif.
Et moi, dans mon analyse politique, dans les textes que j'écris, je dis, n'oublions pas que l'homme augmenté, c'est une petite élite qui va vivre sur l'homme diminué. Vous voyez, en fait, l'homme augmenté, c'est celui qui a les moyens des prothèses, au sens le plus large du terme. C'est la petite élite qui est d'ailleurs l'hyperclasse, hors sol, etc. Mais d'un point de vue de la relation économique, si on regarde, ça ne peut fonctionner que sur la masse de ce qu'on appelle des hommes diminués, hein, c'est-à-dire qui sont des esclaves en réalité. Et ça, c'est quelque part une nouvelle lutte des classes. Hein. C'est de l'homme augmenté contre l'homme diminué. Parce que on vous vend l'idéologie de l'augmenté du transhumanisme, mais c'est fonctionner pour une toute petite élite en réalité. Ils savent que ça leur est réservé. Et en fait, ce qu'on nous cache derrière, c'est que la masse des hommes diminués qui permettront à ces hommes augmentés de se maintenir. Et c'est intéressant parce que tout ça, c'est des nouveaux concepts. C'est pour ça que ça serait bien de faire un lexique. La nouvelle lutte des classes.
Tout à fait d'accord.
Et surtout que ce soit traduit pour que les Chinois... Parce que moi, j'ai un vrai problème de langue. Hein. Quand on ne parle pas russe, on ne parle pas chinois, et qu'on est obligé de passer par l'anglais. N'oubliez pas qu'il y a quand même la langue de l'ennemi, d'une certaine manière. Mmh. Ça aussi, c'est un problème dans la conversation.
Je crois que j'ai étudié les civilisations différentes. Je suis venu à la conclusion, même assez connue déjà, de Franz Boas ou Claude Lévi-Strauss, ce qu'il n'y a pas la traduction. On ne peut pas faire. On ne peut pas traduire correctement le terme à l'autre langue parce que le terme dépend du contexte. Le contexte forme le sens de mots et les mots sans ce sens, on ne peut pas les traduire. Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Chine, il faut au moins avoir quelques idées de la langue chinoise, la même chose au hindi, et donc tradition, l'histoire, langue et culture. Il prépare le terrain pour interprétation de termes. Et donc, je crois que la lecture chinoise de marxisme est tout à fait différente.
Oui, ça donne autre chose. D'ailleurs, l'idée de multipolarité, elle est là. C'est-à-dire que l'unipolarité, c'est la triomphe du marché, c'est-à-dire de la vision anglo-saxonne avec la langue anglaise.
Universaliste.
Le monde maritime aussi, c'est-à-dire qu'il est sans frontières, faut pas oublier. Le monde maritime est une piraterie. Consubstantiellement pirate, c'est-à-dire que la frontière n'existe pas. Et en fait, c'est pareil, ce basculement du monde qui a lieu en ce moment, c'est quand même un retour au continental, pouvoir du continental. Chine-Russie, nous, on fait partie de ce continent et on nous interdit d'en faire partie. Mmh. On nous dit, vous devez rester sous la domination du monde thalassocratique, hein, du monde maritime, alors que notre destin géopolitique évident, c'est Chine, Russie, Europe. D'autant plus que sur le plan économique, on a tout à voir. Énergie contre produits finis. Enfin, je veux dire, le drame aujourd'hui, c'est que moi, quand je vais aller en Russie, je suis obligé de passer par l'Arabie Saoudite ou la Turquie, alors que de Genève à Moscou, c'est 3 heures d'avion. Ouais. Et là, je me suis tapé 20 heures. J'ai attendu des heures. C'est vraiment le rideau de fer. Le rideau de fer a jamais été aussi présent, en fait. Ouais. Et même au niveau culturel. Vos livres ne sont pas disponibles en France chez les petits éditeurs. Moi, je ne suis pas traduit non plus, j'aimerais bien, je ne suis pas traduit en russe. Et en fait, on ne connaît de la Russie que Tolstoï, Dostoïevski, Lénine, vous voyez. Mm-hmm. On ne sait pas la production. Et moi, j'ai une petite librairie à Paris, on essaie de passer des accords avec la communauté russe de Paris, mais on subit des pressions terribles parce qu'il y a une guerre, y a une guerre à mort, hein, contre la Russie en ce moment menée par le pouvoir macronien. Et ça, c'est tragique quand on voit qu'on est complètement allégeant à la culture anglaise, la perfide Albion, qui a programmé la destruction de l'alternative française. Ça aussi, j'explique souvent ça. Pourquoi la France est aussi martyrisée aujourd'hui ? Parce que dans le monde de la modernité, d'après le XVIIIe siècle, il y avait deux propositions occidentales. La proposition française, qu'on appelle l'humanisme français, et puis la proposition anglaise, qui est le marché en réalité. Les human rights contre droits de l'homme, ce qui n'est pas la même chose. Nous, on avait une dimension égalitaire, universelle, qui était plus généreuse. Et en fait, notre pire ennemi, c'est le monde anglo-saxon. Parce qu'il faut détruire la conscience de l'alternative française. Ce qui expliquait que De Gaulle avait essayé de parler de troisième voie, le discours de Phnom Penh. C'était déjà du Poutine avant l'heure. Hein. C'était déjà le monde multipolaire. Quand il disait ni URSS, ni États-Unis. Vous vous rappelez du discours de Phnom Penh, de Québec ?
Continentalisme.
À part que nous, on n'avait pas le pouvoir. À l'époque, déjà, De Gaulle n'avait plus le pouvoir. Aujourd'hui, la Russie a le pouvoir Poutine a le pouvoir que n'avait pas De Gaulle pour faire cette proposition multipolaire. Et d'ailleurs, elle marche, ça s'appelle les BRICS. Mais ça aussi, c'est quelque chose de tragique pour nous. On nous empêche de dialoguer avec nos cousins culturels qui sont les Russes. On le voit par la littérature, entre de Balzac à Dostoïevski, il y a les ponts. Les ponts culturels sont évidents, alors qu'avec l'Angleterre et le monde anglo-saxon, beaucoup moins. Et les Français, on leur a fait perdre l'idée que nos ennemis auraient été... Même de ce point de vue-là, Bainville, à mon avis, trichait un peu dans les années 30 en disant que l'ennemi permanent, c'était l'Allemagne. C'est faux. Il y a un très grand respect entre Allemands et Français à un niveau culturel. Un respect alors que l'Angleterre ne nous aime pas. Et ça, on nous l'a fait oublier que l'Angleterre ne nous aime pas parce qu'on est une alternative. Et aujourd'hui, on le paye terriblement. On nous empêche de dialoguer avec la Russie. On nous oblige de penser qu'on est des Anglo-Saxons, finalement. Et ça, c'est la vraie tragédie. C'est que moi, quand je vais rentrer, c'est ce que j'ai dit, quand les gens me disent « vous êtes courageux d'aller dans le Donbass », je fais « non, non ». Le courage, c'est quand je rentre en Suisse ou que je rentre en France. Parce qu'en général, on va m'attraper à l'aéroport pour me débriefer. Hein, je suis allé... Et ça, c'est, ça aussi, ça ferait partie des choses qu'il faudrait arriver à faire, d'essayer de rappeler à quel point la France et la Russie ont des parentés profondes et à quel point le monde anglo-saxon et n'est pas le monde français et le monde et nous en veut, nous veut faire disparaître. On ne doit garder que la mode et la cuisine hein, de la France. Et de ce point de vue-là, pour repartir sur Trump, quand je vois l'entourage catholique de Trump et la manière dont il met en avant la Vierge Marie, il y a aussi une rupture subtile avec le protestantisme, même s'il ne peut pas l'assumer. Ça, c'est des signes positifs aussi. La présence de la Vierge. Poutine met beaucoup la Vierge par sa femme, par Mélania. Et il y a beaucoup de convertis au catholicisme autour de lui, hein, je crois. Vance.
Ce qui est intéressant, c'est que Mélania, qui est
slovène.
Aussi slovène, mais elle parfois a assisté à la messe orthodoxe, chrétienne orthodoxe.
Il y a un message subtil qui est envoyé au catholicisme et à l'orthodoxie, qui sont quand même ont aussi des parentés. Hein, on voit bien qu'il y a d'un côté le juif et protestant ensemble, et de l'autre côté, il peut y avoir une conciliation entre orthodoxe et catholique, c'est évident, mais même parfois musulman. Il y a des convergences possibles. Et ça nous est interdit de penser à ce genre de convergence. Aujourd'hui, en France, le pouvoir français, qui, je ne vais pas le dire, mais qui est quand même lié au le CRIF, hein, qui est... Ce n'est pas la même situation ici. Le pouvoir juif en France est très, très fort. Et en ce moment, déclare la guerre aux musulmans en France. Ils ont sorti un document sur la pénétration des frères musulmans pour nous faire croire que les frères musulmans essayaient de prendre le pouvoir en France. Il y a une volonté de guerre civile molle en France qui est voulue par les sionistes, qui a été aussi déclenchée par le 7 octobre, hein, pour que nous suivions absolument Israël comme avant-garde du monde judéo-chrétien, protection de la civilisation contre le despotisme oriental, vous voyez, toutes ces catégories qui vont chercher chez les néocons américains, hein, cette idée que la démocratie est consubstantielle à la vision anglo-saxonne et que le reste, l'alternative, c'est le despotisme oriental et qu'on doit choisir entre ces deux pôles. Tout ça est en train de nous être imposé en France, ce qui est pour quelqu'un qui a une vraie culture française, c'est une violence... une brutalité comparable au jdanovisme à une certaine époque.
Il manque en leur dépeinte, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, à mon avis.
Oui, mais ce qu'on en a compris, c'était
brutal. Tellement brutal. C'était le retour aux racines russes dans le contexte soviétique, parce que le premier état de l'histoire, de la culture bolcheviste, était très anti-russe, très hostile par rapport à la culture russe. Et avec Jdanov, c'était le retour avec les histoires populaires, la littérature classique. Donc, c'est une limitation, disons, de russophobie et le retour à l'héritage culturel classique beaucoup plus que... Donc, dans notre contexte, jdanovisme, ce n'est pas
péjoratif.